Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30.
Bonjour à tous et bienvenue dans Curiosité, vendredi 17 novembre, voici les titres. Comme chaque vendredi, nous ouvrirons notre émission par une page d'actualité locale. Quelles sont les dernières informations? Restez bien avec nous. Exceptionnellement, en début de cette émission, votre chronique littéraire avec Alexis, de quel livre va-t-il nous parler? Vous le découvrirez dans un instant. Si je vous parle d'ostréiculteur, peu de gens savent de choses sur ce mot et ce métier. Justine est partie découvrir comment sonne un emploi pas très commun. Manga, jeux vidéo, cosplay, un programme riche qui se déroulera demain et dimanche, Art to Play, événement à suivre donc, et Saja nous fera d'ailleurs une chronique sur ce sujet. À la fin de l'émission, on retrouve Ivy et ses contes modernes, deuxième épisode du Lore des Folks sur le thème de la dangerosité des relations de domination. Et dans l'entretien de ce soir, nous pencherons sur une compagnie basée en Normandie portée par une écologue et une comédienne qui ont fusionné leurs compétences pour aborder des sujets écologiques par le biais du spectacle vivant. On en parle dans quelques minutes avec nos invités. Bonjour à vous.
Bonjour.
On commence tout de suite avec l'actualité marquée tout d'abord par d'inexpliqués feux de voitures. Trois voitures ont été touchées par un incendie dans le quartier Boissière à Nantes. Dans ce secteur autour du centre de détention, ce n'est pas moins de 10 voitures qui ont été brûlées dans la nuit de mardi. A priori, il n'y aurait pas eu d'intervention policière ou d'interpellation, qui aurait pu expliquer ces troubles. Affaire à suivre donc. Un bilan qui fait froid dans le dos, celui des victimes de violences sexuelles ou sexistes. L'université de Nantes a dévoilé les résultats de son enquête sur les violences sexuelles et sexistes subies par ses étudiants. Plus de 5000 d'entre eux ont répondu. 4 étudiants sur 10 déclarent avoir été victimes d'au moins une situation de violence depuis un an dans le cadre de leurs études. En grande majorité, ce sont les femmes les plus exposées à ce fléau. Et d'après Karine Bernot, présidente de Nantes Université, ce sont des chiffres tristes et soulignent l'impérieuse nécessité de sensibiliser toujours tout en redoublant d'efforts pour éliminer rapidement des campus ces comportements aux conséquences dévastatrices pour leurs victimes. Fin de citation. Terminons avec la visite hier soir du ministre des Transports Clément Beaune. Ce dernier a fait le point sur la très attendue modernisation de l'aéroport Nantes-Atlantique. Et ce qui en ressort, c'est que le couvre-feu aujourd'hui serait mal respecté. Il serait donc appliqué de manière plus stricte et plus forte avec des amendes plus élevées. Le texte de loi prévoyant ce couvre-feu sera, je cite, plus mordant et plus efficace. J'ajoute également qu'un nouvel appel d'offres pour l'exploitation de l'aéroport sera lancé avant la fin de l'année. Le ministre souligne également que l'allongement de la piste, longtemps évoqué, ne fera plus partie du cahier de charges. Il y aura aussi un moratoire jusqu'en 2027 sur les changements de trajectoire et ce pour éviter les trop nombreux survols de davantage d'habitants, affirme-t-il. Voilà pour les toutes dernières informations. Entrons à présent dans le monde de la littérature avec exceptionnellement votre chronique littéraire au début de cette émission sur Prune 92 FM.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Bonsoir Alexis, c'est à vous.
Merci. Bonsoir à vous tous et toutes qui nous écoutez. Si vous écoutez régulièrement, effectivement, cette chronique est plutôt lieu normalement à la toute fin d'émission, mais là, elle sera tout au début pour que je puisse aller ensuite au cinéma. Voilà, vous connaissez tout maintenant de ma vie, mais je vais quand même vous parler d'un livre. Et ce livre, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle La Fabrique des Lendemains, qui a été édité tout d'abord aux éditions Le Bélial, donc qu'on salue, puis en format poche dans Le Livre de Poche, et c'est cette version que j'ai pu découvrir. Cette Fabrique des Lendemains donc, a été écrite par Rich Larson, qui est un jeune écrivain canadien de science-fiction, un écrivain à suivre. Il a tout juste 30 ans. Voilà, il y a des gens qui écrivent des livres déjà à cet âge-là. Ils ont bien raison, d'ailleurs. Le livre a reçu plutôt l'une des nouvelles à l'intérieur de ce recueil, a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire donc en 2021. Ce qui est à souligner. Alors, il s'agit bien de nouvelles de science-fiction. Il y en a quand même une bonne 15-20, je crois, dans ce recueil de à peu près 400 pages. Donc, il y a de quoi faire. Et ce sont alors des nouvelles que j'ai trouvées tout à fait intéressantes. Alors, ce qui est déjà intéressant, c'est le principe de la nouvelle pour la science-fiction. Ça date peut-être déjà du 19e siècle, mais surtout vraiment de la deuxième moitié du 20e siècle, avec pardon, le format court en fait, se prête particulièrement bien à la SF, que ce soit dans la littérature, mais aussi dans l'audiovisuel. On pense à des séries télé comme bien sûr La Quatrième Dimension, dès les années 50, avec justement cette manière d'entrer en matière très rapidement dans un contexte d'anticipation ou de science-fiction, et de terminer souvent sur une sorte de pirouette, voilà, un retournement de situation qui nous fait voir les choses différemment. Comme souvent dans la science-fiction, il est question en fait beaucoup d'aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant, c'est de voir que cette science-fiction, celle de Rich Larson, elle est très moderne. Elle est très actuelle, même si ça parle de demain, comme son titre l'indique. Mais voilà, comme souvent dans la science-fiction. C'est-à-dire que la science-fiction va évoluer en fonction, finalement, de la science. Et il est question, dans ces nouvelles, d'humanité connectée, d'humanité amplifiée, de qu'est-ce que c'est que d'être humain à l'époque, justement, des réseaux et des améliorations physiques de type cyborg. Et même si ça, c'est des choses qu'on entend depuis assez longtemps, quand même, dans la science-fiction, là, ici, c'est vraiment mis au goût du jour avec, des contextes qui sont tout à fait crédibles, selon ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, comme très souvent dans la science-fiction, et quand c'est réussi, je veux dire, ça fait réfléchir quand même. C'est pas l'aspect scientifique est là, il est présent, mais on ne s'apesantit pas dessus. Hein, on est plus finalement dans quelque chose à la... pour ceux qui connaissent, hein, et vous devez le... j'espère que c'est votre cas. On est plus du côté de H.G. Wells, donc Herbert George Wells, donc l'auteur magnifique de La Guerre des Mondes, La Machine à explorer le temps, L'Homme invisible, plus de ce côté-là que du côté Jules Verne, qui serait plus de la hard science fiction, où on essaye un peu plus de coller à une actualité scientifique. Là, l'aspect scientifique, il sert surtout à raconter des histoires très humaines, qui se passent d'ailleurs au fil des nouvelles, assez souvent, on l'imagine, le même univers, ça pourrait très bien être un peu à la manière d'une série télé anthologique, hein, comme on dit, donc justement à la quatrième dimension, des histoires qui se passent au même endroit et qui posent toujours la question de qu'est-ce que c'est que l'humanité, du robot, etc. Et des réseaux. Et en plus, c'est assez régulièrement bourré d'action, donc c'est assez facile à lire et très agréable. En plus, comme c'est des nouvelles, vous pouvez le poser, le reprendre, etc. Donc vraiment, c'est un recueil que je vous conseille. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, puisque il s'est fait remarquer un petit peu partout. Ça s'appelle donc La Fabrique des Lendemains, écrit par Rich Larson, recueil de nouvelles de science-fiction, publié par le Bélial en France, puis maintenant par le livre de poche, est disponible un peu partout.
Bon, en tout cas, je vous remercie pour tous ces détails bien complets. Vous êtes sur Prune et notre invité va nous parler aujourd'hui de théâtre et écologie. C'est tout de suite.
Curiosité. Pensez le futur.
Attention, quiz. Comment s'appelle la partie végétative, c'est-à-dire celle qui entretient les fonctions vitales du champignon? Cette partie souterraine joue le rôle de décomposeur de matière organique et d'absorbeur de nutriments et d'eau. C'est...
Le mycélium.
Bien joué, Alexis. Pour ce nouvel entretien ayant pour thème « Penser le futur », pensez-vous que notre intervenante de ce soir soit réellement mycophile, autrement dit amatrice de champignons? Bonsoir, Alban Danflou, et bienvenue dans les studios de Prune.
Merci, bonsoir.
Sans doute êtes-vous amatrice de champignons, mais vous êtes aussi, et c'est la raison pour laquelle je vous reçois, artiste et porteuse de projets au sein de la compagnie Mycélium, basée en Normandie. Vous créez des spectacles dans l'espace public et on vous retrouvera notamment à Nantes le 22 novembre prochain pour une rencontre éclairée sur le projet Droit de cécité, animé par Pickup Productions. Tout d'abord, défrichons un peu. J'ai donné la définition classique du mycélium, mais... pouvez-vous, à présent, nous donner la vôtre, celle qui a donné son nom à votre compagnie? Pourquoi le mycélium?
Alors oui, on est à deux porteurs de projets. Donc je suis toute seule ce soir à l'antenne, mais il y a mon comparse Gabriel Soulard, avec qui on a monté donc cette compagnie il y a maintenant 5 ans. Mycélium, c'est la rencontre, on va dire, entre nos deux spécialités. Moi, je viens du théâtre. En tout cas, j'ai eu une formation de clown et de théâtre plutôt dédié aux espaces publics. Et Gabriel, lui, a une formation scientifique, d'écologiste, en fait. Il a travaillé sur toutes les questions de biodiversité et d'aménagement du territoire. Il a d'ailleurs travaillé en collectivité pendant une dizaine d'années sur ce genre de poste. Et nous avons donc décidé de créer des spectacles qui mixeraient, on va dire, voilà, ces connaissances et ce regard, on va dire, plus technique et scientifique, voire politique, sur un espace et voilà, de proposer ça avec du théâtre de rue. Donc mycélium dans le sens où c'est beaucoup un travail d'écriture ou de relation, en tout cas, qu'on fait dans nos créations et dans nos projets. Et le côté, en tout cas, souterrain et qui se propage et qui connecte, voilà, nous parler avec notre travail et le fait que ce soit une forme vivante qui soit dans le sol et qui nous ramène à quelque chose de très terrestre et de très concret, nous plaisait aussi dans cette image du mycélium.
Alors le sous-texte du mycélium, donc c'est écrit juste en dessous du champignon, c'est marqué théâtre de rue, trois petits points, et de chemin. C'est quoi exactement la philosophie de mycélium? Parce que vous mêlez l'écologie et la science, mais pas de n'importe quelle manière.
Alors, philosophie, je ne sais pas si on est très philosophe hein, dans notre façon d'écrire. Je pense qu'on essaye. Théâtre de rue, plus loin de chemin, c'est-à-dire qu'on travaille pour plein d'espaces. Alors, quand je dis on travaille pour, c'est vraiment la démarche dans laquelle on est, parce qu'on travaille pour et avec les lieux. Nos créations, comme vous l'avez dit en introduction, sont dédiées aux espaces publics qui sont très variés. Ça peut être l'urbain. Voilà, on a un spectacle qui tourne dans des centres-villes, sur des places de parking, sur des parvis. Et on a aussi des créations qui vont être plutôt dans des milieux périurbains ou des milieux ruraux ou aussi des espaces naturels. Donc voilà, théâtre de rue et de chemin, c'est pour parler de la diversité des espaces avec lesquels on coécrit nos spectacles.
Et aussi beaucoup avec engagement et humour de ce que j'ai pu constater sur votre site.
On essaye.
Alors, au service de l'écologie, il y a le théâtre, mais pas que, puisque vous abordez ce thème à travers des formes variées, que sont la musique, la danse, la vidéo, les arts plastiques. Vous l'avez dit, vous êtes vous-même comédienne. Gabriel est, lui, écologue, urbaniste, et je crois qu'il est aussi musicien, et chanteur, oui, et guitariste. Voilà. Et quels sont les autres profils des membres de la compagnie Mycélium?
Alors, dans la compagnie, voilà, on va dire, à porter, à mener cette compagnie, donc on est trois, il y a Gabriel et moi en écriture, et également Benjamin, avec qui on travaille sur tout l'aspect coordination, administration, production, voilà, qui est vraiment un trio, on va dire, compact de cette compagnie.
Et complémentaire.
Et complémentaire, et on travaille avec plusieurs artistes et autres concepteurs, constructeurs, avec des musiciens, avec des techniciens son, avec un artiste peintre, avec voilà, des plasticiens également.
Donc des profils variés. Comment vos spectacles se construisent-ils? Qu'est-ce qui détermine la forme qu'une création va prendre? Est-ce intuitif, en fonction des rencontres, de l'environnement que vous découvrez?
C'est un peu tout ça à la fois. Nous, ça prend pas mal le temps de fleurir, les créations dans Mycélium. Souvent, on passe par des cartes blanches. Donc, on a une idée dans la tête ou dans le ventre et on a parfois l'occasion, la chance d'avoir des interstices pour essayer des formes et inviter des personnes à réfléchir, à être en laboratoire, à jouer, à tester des matières qui ensuite deviennent ou pas des spectacles.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, les espaces publics sont nombreux. Ça peut être la rue, une place, un sous-bois. Et il me semble que vous avez trois spectacles qui sont loin d'être banals et qui tournent. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu à nos auditeurs et auditrices de l'un de vos trois spectacles? Par exemple, au hasard, la string que vous jouez depuis 2016.
Alors, la structure territoriale de recherche intégrée sur la nature globale, c'est notre premier spectacle qui a été voilà, écrit sur de nombreuses balades qu'on a faites, on va dire, vraiment à caractère privé dans nos vies et qui, petit à petit, sont devenues des spectacles, enfin un spectacle, qui s'adapte à chaque lieu dans lequel on va jouer. Donc on vient une journée en amont, on réadapte, on réécrit, on intercale des scènes, on trouve un parcours, on le choisit. Et ça, on fait ça à chaque représentation. Donc ce spectacle qu'on a joué plus de 150 fois change à chaque, par rapport à chaque lieu et s'adapte et interagit avec les lieux différents. Donc voilà, le spectacle, en deux mots, c'est une sortie naturaliste à la découverte de la biodiversité environnante, portée par un spécialiste, Florent Chatterton, qui aujourd'hui accueille sa stagiaire qui va passer son stage de BTS GPN, Gestion et Protection de la Nature.
Ouais, c'est un spectacle auquel les participants sont vraiment partie prenante.
Oui, le public, souvent, dans toutes nos créations, font une expérience réelle. C'est-à-dire qu'ils sont spectateurs, mais ils sont également... alors, je ne sais pas si le mot acteur est juste, mais en tout cas, ils sont à un endroit où ils vivent une interaction avec le spectacle, avec les personnages et la plupart du temps, enfin tout le temps d'ailleurs, avec l'espace dans lequel on se trouve ou les espaces qu'on traverse.
Alors parmi, vous avez donc trois spectacles, La String est l'un d'entre eux. Est-ce que, avant de faire notre petite pause musicale, vous pouvez nous dire en quelques phrases, nous parler de votre création en cours, La Troisième Peau de l'Homme?
Oui, alors cette création est assez particulière dans le sens où ça ne va pas être un spectacle comme on a eu l'habitude de les faire jusqu'à maintenant. Ça va être une installation dans un quartier qui va se déployer sur 5 jours, où on va passer 4 jours à s'immiscer dans le quotidien du lieu, autour, sur les façades, dans les interstices entre les bâtiments, dans les espaces verts entre ces bâtiments-là, pour petit à petit semer des moments de rencontres, d'échanges, de chantiers autour de la relation qu'on porte à nos maisons et à nos façades de maisons, qu'on appelle notre troisième peau, dans le sens où notre peau de corps, nos vêtements seraient notre seconde peau et notre habitat serait la troisième peau. Donc ce spectacle est inspiré du peintre-architecte Hundertwasser, qui est un peintre viennois connu mondialement, mort dans les années 2000. Et on s'inspire de son travail. Il a écrit beaucoup de manifestes d'architecture, notamment. Et la dernière soirée serait une visite de ce chantier à ciel ouvert, de cette expo. Et on terminerait par une soirée avec du mapping vidéo, de la musique. Voilà, retraçant son œuvre et retraçant l'œuvre qui aura circulé pendant 4 jours dans le quartier.
On reparlera de Hundertwasser juste après. Je l'avais annoncé, c'est le moment de faire une pause musicale avec Alpha Stepa et Pupa Jim sur un titre mélancolique comme une lettre ouverte sur les catastrophes écologiques à venir. Dear Friend, on se retrouve
Dear
tout de suite après.
Our problem is so deep. The mountain we are hiking is so steep. I doubt that we get there in time. But we can't be young to climb. The rule of our eyes with a sweep. Miss open minus fell asleep. But even if I want to quit, we can't be young to climb. The world burns out with a sweep. Perfected contamination of the water of the soil. The air is not in better shape.
carry on to climb. Too late, but we carry on to climb. Too late, I'm afraid.
Vous venez d'écouter Dear Friend des artistes Alpha Stepa et Pupa Jim. Il y en a d'autres qui nous sensibilisent à l'écologie ce soir et ils officient dans la compagnie Mycelium. Nous retrouvons donc Alban Danflou, créatrice de spectacles de rue et de chemin, pour réfléchir à l'environnement qui nous entoure. Dans le cadre d'un temps fort organisé la semaine prochaine par Pick Up Productions avec l'École nationale supérieure d'architecture autour du thème « Pour une ville plus humaine », vous allez justement restituer l'une de vos concertations déconcertantes qui a eu lieu le 17 octobre dernier. Donc les concertations déconcertantes, on n'en a pas encore parlé, mais ça fait partie des formes que vous proposez au public et avec le public. En quoi consistait cet atelier de concertation originale intitulé « Droit de cécité » ?
Alors ce projet avec Pick Up vient d'une invitation de Pick Up à concerter un public en situation d'handicap visuel sur leur rapport aux différents niveaux d'urbanisation du sol dans la ville, et notamment dans la ville de Nantes. La ville de Nantes porte un projet depuis quelques années sur débitumer la ville, avec notamment un plan qui s'appelle Plan Pleine Terre, pour ramener la nature en ville, et notamment sur des espaces où ils enlèveraient le béton et redonner place au végétal et à toute la biodiversité qui peut s'y développer, donc les insectes, la faune, etc. À partir de cette demande-là, on a rencontré plusieurs personnes en situation de handicap visuel qui sont liées à Pick Up et au-delà, parce qu'on a rencontré aussi des personnes de l'association CLISA dans une formation de guidage pour apprendre à accompagner une personne en situation de handicap visuel dans un espace, dans la ville. On a rencontré également une jeune étudiante, Angèle Pilot, qui travaille sur une thèse sur le sens des masses et qui interviendra également mercredi prochain. Et on a rencontré 6 personnes à qui on a proposé donc un parcours dans la ville, dans un quartier proche des ateliers de Chanzy où réside Pick Up en ce moment. Donc on a fait une balade jusqu'au bord de l'Erdre pour noter, on va dire, et explorer des niveaux de biodiversité différents sur une forme de gradient et de nous parler aussi de quelles humeurs ils ressentaient des espaces et donc d'avoir une expertise, en tout cas de les concerter comme experts en la matière du sol. Quel niveau de biodiversité ils sentent, quelle accessibilité aussi donne tel type de sol et tel type de sol, quelles contraintes amènent tel type de sol. Voilà, donc de nous rendre une expertise de terrain concrètement.
À partir de ce qui est vécu et perçu, du coup.
Voilà.
Alors, les rencontres éclairées, c'est la restitution de cette expérimentation donc, qui aura lieu le 22 novembre prochain à l'École d'architecture. Sous quelle forme vous allez présenter cette restitution ? Est-ce que ce sera avec ou sans les participants, les participantes ?
Alors, ce sera, il y aura quelques participants et participantes qui seront avec nous ce soir-là. Après, on n'a pas intégré, on n'a pas donné un rôle quelque part à ces personnes dans cette restitution par manque de temps et de possibilités d'inclure. Après, on a, c'est pas vraiment un manque de temps, c'est plus aussi une posture. On a fait un débrief là cette semaine avec certains d'entre eux pour leur proposer des idées qu'on a eues. Voilà, parce que nous, notre objectif, c'est de proposer une restitution qui soit autant palpable pour des personnes en situation de handicap visuel que pour des personnes qui n'ont pas d'handicap visuel.
Donc, alors, sans divulguer, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites
Alors, on va pas mal utiliser du détournement d'audiodescription. L'audiodescription est très utilisée et se développe beaucoup. L'audiodescription d'un film. Là, au cinéma, on peut prendre un casque et d'une œuvre dans un musée. Jérémy, de pick-up, audio décrit des matchs de rugby, audio décrit des concerts.
La radio, on comprend bien ce que ça veut dire.
Oui, voilà. Donc voilà, on va utiliser ce ressort notamment.
Alors pour la poursuite de votre travail, vous semblez vous inspirer, et vous l'avez déjà nommé, d'un artiste autrichien du XXe siècle, écologiste engagé et dont le style était comparable à celui de Gaudi. Il disait en 1968 « Le sol plan est une invention des architectes, il se justifie pour les machines, il ne se justifie pas pour l'homme ». À quel constat vos concertations déconcertantes vous amènent-elles? Justement, peut-être la dernière, puisque vous parliez justement des sols avec les personnes en situation de handicap visuel.
Et ben pour rebondir sur cette citation, l'homme a une grande diversité de perceptions, et les personnes qui n'ont plus la vue ou qui en ont très très peu ne vivent pas du tout le même rapport au déplacement dans une ville. On font face à des contraintes nombreuses et qui pourraient nous sembler quasiment nulles, mais il y a une somme énorme de contraintes et d'obstacles pour une personne qui a perdu la vue ou qui est en train de la perdre. Donc je dirais que c'est compliqué d'être radical, du coup.
Mais de ce que
par rapport à son discours, je voudrais lui dire, fais l'expérience de traverser une ville, Hundert, les yeux fermés ou les yeux bandés, et on en reparlera.
Peut-être que ce qu'il voulait dire, c'était que les aspérités sont peut-être pas des obstacles forcément, mais des moyens d'avoir des repères.
Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup du discours de ces personnes, suite aussi à l'expérience qu'on a traversée ensemble. C'est la rugosité ou les aspérités peuvent en effet être des obstacles, mais si c'est un obstacle qui devient pérenne et immuable, il devient donc un repère. Donc ce qui est compliqué pour des personnes non et malvoyantes, c'est quand les repères se mettent à bouger. Et une ville est très mobile et la végétation est altérée aussi par les saisons, bouge. Et c'est cette mobilité qui peut être aussi une complexité pour les personnes en situation d'handicap visuel.
Alors l'entretien touche déjà à sa fin. Est-ce qu'on peut connaître vos prochaines dates éventuelles? Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite string prévue à Nantes ou ses environs prochainement?
Alors ça, je vous invite à aller sur l'agenda de la compagnie. Je ne connais malheureusement pas les dates par cœur, mais on redémarre la saison au mois de mars. Voilà, parce que nous sommes comme beaucoup d'espèces vivantes non humaines. Hein. Nous sortons notre nez de mars-avril à octobre.
Vous hibernez entre-temps. Vous créez. Merci infiniment Alban Danflou de nous avoir emmenés sur des chemins de traverse sur Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes artiste et porteuse de projets au sein de la compagnie Mycelium et que vous vous produisez avec humour et engagement partout en France grâce à votre art de rue, de chemin et de sous-bois au service de l'écologie.
Merci.
Chères auditrices et chers auditeurs, le prochain temps fort à Nantes avec la compagnie Mycelium, ce sont les rencontres éclairées pour une ville plus humaine avec Pick-up Productions. Et ça se passe le mercredi 22 novembre de 17h30 à 20h30 à l'École nationale supérieure d'architecture 6 quai François Mitterrand. C'est gratuit, sur inscription, rendez-vous sur le site pickup-prod.com. Il est plus que jamais temps de renouer avec ce qui nous rend vivants. Les émotions, les relations humaines et non humaines, la douceur, les aspérités, nos cinq sens. Soyons le mycélium de nos propres vies, cultivons la joie et imaginons ensemble nos futurs souhaitables pour retrouver les couleurs de l'espoir.
Merci beaucoup pour cette interview. Et sans plus attendre, on retrouve notre néo-nao préféré pour sa chronique.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
C'est un moment très solennel pour toute la nation. Le 11 novembre, date de l'armistice, fin de la Première Guerre mondiale donc, une cérémonie qui s'est déroulée samedi dernier en présence du président de la République Emmanuel Macron. Cet événement clé est d'ailleurs le sujet de la chronique de la semaine présentée par notre journaliste Gaël. Bonjour Gaël, comment allez-vous cette semaine ?
Bonjour à toutes, ça va bien, merci. J'espère que ça va bien pour tout le monde ici et aussi chez vous de l'autre côté de la radio. Donc, comme vous l'avez annoncé, aujourd'hui, je vais nous faire voyager dans le temps, car nous allons parler des commémorations du 11 novembre.
Alors, vous êtes allé à la cérémonie, du coup ?
Oh non, non, au contraire. Moi, j'ai plutôt profité d'une bonne grasse matinée, comme tous les samedis et les jours fériés, En fait, ce qui m'a impressionné, c'est la portée patriotique que cela a pris. J'ai vécu pas mal de temps à l'étranger ces dernières années et je n'étais plus habitué à ce genre de cérémonie.
Alors, pour être plus précis, c'est pas qu'une fête patriotique. Selon le site viepublique.fr, c'est la commémoration de la victoire et de la paix. De plus, savez-vous que toujours, selon le même site, depuis la loi du 28 février 2012, cette journée rend hommage à tous les morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires.
Ah ben je ne connaissais pas cette loi et justement c'est ça un peu qui me gêne sur la symbolique de cette journée. Je trouve que le concept n'est vraiment pas du tout d'une grande réussite. Le message passé n'est pas du tout celui qu'on a vu lors des commémorations. La journée de mémoire du 11 novembre est célébrée dans beaucoup de pays dans le monde entier et je crois que depuis 1918... on ne peut pas vraiment dire que de gros efforts soient faits pour éviter de nouveaux conflits.
Alors oui, c'est totalement vrai. Avec la guerre en Ukraine et récemment avec celle en Cisjordanie, ce n'est pas demain, la veille, que l'on aura la paix des peuples.
Et vous ne croyez pas si bien dire, les médias n'en parlent pas trop, mais de l'Amérique du Sud à l'Asie du Sud-Est, en passant par l'Afrique, il y a actuellement plein de guerres. Donc dans le cadre de notre thématique « Penser le futur », je vous propose d'échanger avec un ado d'il y a 105 ans, soit qui a vécu le lendemain de l'armistice et qui penserait donc le futur depuis le passé.
Alors, si je comprends mieux votre histoire de voyage dans le temps, allons-y maintenant.
Oui, très bien. Alors, je vais essayer de me mettre dans la peau d'un ado de 1918. Alors, je vais juste changer d'accent, ça va être le plus simple que je peux faire. Ouf, enfin, l'armistice est signé. On va pouvoir reprendre une vie normale. Après ce qu'on vient de vivre, je pense que les adultes et les politiciens, les gens matures, quoi, vont enfin se calmer et nous laisser grandir en paix.
Désolé de gâcher votre plaisir, mais j'ai bien peur que non. En 2023, ce n'est pas encore la joie pour plein de gamins de votre âge dans le monde entier.
Quoi ? Vraiment ? Mais il leur faut quoi pour comprendre ? Les hommes sont donc si puérils, rien ne change. Ils veulent toujours jouer la petite guéguerre. Dans cette histoire, c'est toujours les petites gens ou ceux qui n'ont rien demandé qui sont les victimes, j'imagine. Les dirigeants et leurs généraux, qui décident de faire la guerre à la moindre frustration, se servent sans aucun scrupule des populations comme de la chair à canon. C'est toujours comme ça.
Vous ne croyez pas si bien dire. Et dans certains endroits, ce sont même des enfants vous, comme vous qui sont soldats.
Ah bon ? Donc si je comprends bien, le quotidien de certains, c'est d'enlever la vie des autres, d'autres personnes, car différentes, ou parce que leur gouvernement ne leur laisse pas le choix, au lieu d'aller à l'école pour apprendre des choses et se faire des copains. C'est vraiment pas génial ce futur que tu me présentes là, Bilal. J'espère qu'il y a au moins des gens pour essayer de faire bouger les choses.
Alors oui, ne t'en fais pas. C'est exactement ce qu'on fait ici à Prune. Et avec la magie de la radio, les générations futures peuvent t'écouter. Veux-tu leur faire passer un message ?
Ouh là là, tu me prends un peu de cours. Je ne suis pas prêt. Tu n'as pas quelqu'un sous la main pour faire ça à ma place ?
Alors, si tu veux, j'ai Miley Cyrus. Vous allez voir, c'est une personne formidable et elle fait ça très bien. C'est bien ça, Gaëlle, on finit avec elle, n'est-ce pas ?
Eh oui, comme la semaine dernière, donc j'ai trouvé une citation de Miley Cyrus que je vais vous offrir. Donc la voici. Je dis aux gens, vous savez, allez en boîte de nuit, ne fais pas de moi une mauvaise personne. Allez à l'église, ne fais pas de vous une bonne personne. Bref, ne soyez pas dupes, car derrière les belles attentions de ces journées du souvenir, beaucoup de personnes et de pays donneurs de leçons sont en fait les premiers à encourager tout, sauf la paix. Allez, c'est tout pour moi. Adieu, Guelpewell.
Merci Gaël pour ce voyage temporel qui nous fait réfléchir au sens de certaines commémorations. Il est 18h04 sur Prune, vous êtes toujours dans Curiosité, soyez vifs car maintenant voici l'heure de la pause cadeau avec Esteban.
La pause cadeau.
Ce soir, Prune fait gagner deux lots de 10 tickets pour le Festival des Trois Continents qui aura lieu du 24 novembre jusqu'au 3 décembre dans divers cinémas. Une sélection officielle pour le meilleur de la création contemporaine, des rétrospectives et programmes thématiques pour découvrir ou redécouvrir des classiques, des chefs-d'œuvre oubliés, des trésors cachés, le Festival des Trois Continents est de retour dans les salles de cinéma de Nantes et de Loire-Atlantique pour sa 45e édition. Avec une programmation unique de 90 films d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, le festival rend hommage à Safi Faye, une cinéaste sénégalaise pionnière, à la réalisatrice hongkongaise Anhui, une anthologie du cinéma vietnamien, et à la superstar bollywoodienne Amitabh Bachchan. En tout cas, le Festival des Trois Continents vous invite à faire monde, ici, ensemble, 10 jours durant. Alors pour avoir la chance de gagner ces 10 tickets pour le Festival des Trois Continents, envoie-nous un emoji pellicule sur l'Instagram de Prune. C'est tout pour la pause cadeau d'aujourd'hui, on se laisse avec la suite de l'émission, mais avant, le morceau Pyromane de Eloi. Bonne écoute.
De retour sur le 92 FM. Et à présent, notre ex-stagiaire de 3e et donc nouveau bénévole, Sacha, est de retour en studio et nous parle à nouveau pop culture cette semaine. Il vous propose de découvrir le Art to Play qui a lieu ce week-end à Nantes.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Bonjour à tous et à toutes. Si je vous dis manga, jeux vidéo ou cosplay, ça vous fait penser à quoi ? Et oui, vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui je vous présente le festival de pop culture qui va avoir lieu le samedi et dimanche, le samedi et dimanche au parc des expositions de la Beaujoire à Nantes. C'est la 12e édition du Art to Play.
Mais concrètement, c'est quoi exactement Art to Play ?
Alors Art to Play est un festival ou convention, appelez-la comme vous voulez, qui regroupe des dizaines d'univers connus du grand public. On retrouve bien sûr Harry Potter, Star Wars, Marvel et surtout le monde des mangas et de la pop culture asiatique.
Tu as parlé tout à l'heure de cosplay, c'est quoi un cosplay concrètement ?
Alors le cosplay ou costumade est un loisir qui consiste à jouer le rôle d'un personnage de fiction en imitant son costume, ses cheveux ou sa tenue à l'aide de perruques ou en réalisant tout simplement une coiffure identique et son maquillage. On appelle les pratiquants des cosplayers.
Alors pour nos auditeurs et auditrices qui auraient envie de s'y rendre, à quoi il faut s'attendre sur place ?
Alors là-bas, on y trouve des dizaines de boutiques et des centaines de petits artistes qui viennent exposer leurs œuvres, souvent tournées vers le monde de la pop culture. Il y a aussi beaucoup de stands de nourriture asiatique et pas que. On y trouve aussi une très grande salle réservée à la compétition des cosplays et cette année, une grande nouvelle, un hall spécialisé dans la nourriture asiatique. Alors comme chaque année, le festival invite des influenceurs manga ou autres youtubeurs et tiktokers centrés sur le monde de la pop culture. Ils auront donc des rencontres avec leurs fans, ils pourront faire des photos ou avoir un autographe. Et bien sûr, que les fans de pop culture viennent vivre un moment inoubliable avec leurs amis ou leur famille. Alors moi, pour ma part, j'y étais l'an dernier et j'ai adoré. En particulier le défilé des cosplays qui est très, très impressionnant. Les tenues sont pleines de couleurs et très jolies. Alors moi, j'y retourne cette année et j'ai hâte de voir ce que nous réservent les organisateurs de cette année, surtout en tout cas, moi ce que j'attends le plus, c'est le hall spécial nourriture. Alors n'hésitez pas à venir et surtout n'oubliez pas vos cosplays.
Merci beaucoup Sacha pour cette chronique. Vous êtes sur Prune 92 FM et on vous emmène à nouveau en voyage pour la deuxième fois de l'émission. Vous avez de la chance.
Curiosité reportage.
Ostréiculteur, ce nom vous dit quelque chose peut-être? En tout cas, on approche des fêtes des fin d'année, c'est bien eux qui vont alimenter la France en huîtres. Un métier passionnant, parfois dur, notre journaliste Justine vous propose une immersion sonore au cœur de ce métier. Écoutez donc.
Toute mon enfance, j'ai été dans les pattes de mon grand-père. Il avait de grosses mains, fortes, qu'il appliquait tant à l'entretien de son jardin ou d'autres travaux de bricolage, qu'à l'épluchage quasi permanent de légumes pour la soupe ou du kiwi qu'il me préparait pour mon petit déjeuner. Et puis, il y avait toujours de belles périodes de fêtes et je le revois en train d'ouvrir, une à une, les huîtres prévues pour le repas. Les huîtres, je n'aimais pas ça, mais à chaque fois, je l'écoutais m'expliquer comment s'y prendre. Et surtout, je l'observais avec toute l'attention du monde. Peut-être avec l'espoir secret de découvrir une perle de nacre dans l'un des coquillages. Je ne connaissais que la mer. J'ai grandi dans le sud-est de la France, sur la côte méditerranéenne. Les huîtres n'existaient que sur les étals des écaillés comme une denrée rare, chère et unique. Puis un jour, j'ai décidé de traverser la France et de rejoindre la Bretagne pour poursuivre mes études. Loin des repas de fête, lors d'un rassemblement intersyndical du secteur de l'énergie sur la place des 50 otages, les grévistes venus de Vendée étaient arrivés en autocar avec des caisses d'huîtres pour tout le monde. C'était à la bonne franquette. Finalement, loin de l'exception, je retrouvais un peu du bon vivant qu'était mon grand-père. Après quelques recherches, je suis tombée sur des dizaines de reportages, dans lesquels on voyait surtout les parcs à huîtres et la dégustation qui s'ensuivait dans une cabane de pêcheurs. Je savais qu'il y avait encore plein de choses à apprendre sur le métier d'ostréiculteur. Alors, j'ai décidé de contacter toutes les entreprises d'ostréiculture du Sud-Bretagne et de Vendée. Il y a 2 ans, en période de fête de fin d'année, j'ai fini par obtenir une réponse d'une entreprise vendéenne. Je suis arrivée un matin à 8h, avec mes petits yeux fatigués et de quoi enregistrer. Pour moi, le réveil était difficile. Pourtant, les employés prenaient pour certains leur pause, indice sur l'heure bien matinale de leur embauche. J'avais une consigne, ne pas parler aux employés, car ils font tous un travail méticuleux qui leur demande de la concentration. Au moindre écart, ils devraient recommencer leur comptage. Il y a 3 pôles. Le premier à l'extérieur, où 2 femmes, dont la patronne, trie les huîtres une première fois par taille, puis les place dans des cagettes, qui ensuite sont acheminées à l'intérieur de l'entrepôt. Ensuite, 10 de personnes s'activent à différents établis, où ils comptent les huîtres, le nombre correspondant à un poids défini par la taille de l'huître, et les mettent dans des cagettes en bois. Ils placent les cagettes sur des palettes, déplacées à l'aide d'un transpalette par l'un des ouvriers. Enfin, 2 hommes, qui sont visiblement les seuls à pouvoir discuter, écoute la radio pendant que l'un conditionne les cagettes d'huîtres en plaçant un couvercle et en enroulant le tout de plusieurs rubans en plastique découpés à la cercleuse. L'autre place les cagettes prêtes au convoi sur de nouvelles palettes. Mais pourquoi faire tout ça? Je veux dire, moi, pourquoi faire tout ça? L'idée, écouter et même plus précisément m'emparer de la subjectivité de mon écoute, dégager mon point d'écoute. Pourtant, au bout de 2 heures de prise de son, mon oreille perdait en acuité, même avec mon casque. Avec un micro très directif, j'ai disséqué chaque son de cette usine. Mais je ne pouvais pas lutter face au règne d'une cacophonie générale. Après coup, je comprends un peu mieux pourquoi tous les ouvriers m'ont regardé avec de grands yeux. Quand je me suis approchée d'eux, visant leurs pieds, marchant sur le sol glissant, leur bouche à la recherche d'un souffle, leurs mains décortiquant le moindre de leurs gestes. Qu'entendent-ils aujourd'hui, après des années passées à répéter les mêmes gestes chaque jour? Je ne le saurais pas. Mais je suis certaine qu'ils n'entendent pas, ou plus, ce que j'ai entendu ce matin-là.
Yeah. sé que tú me quieres ver. No quieres que sepa, pero ya yo lo sé. Dime pa' que veas como yo donde estés. Yeah. Baby, yo sé que tú me quieres ver. No quieres que sepa, pero ya yo lo sé. Dime pa' que veas como yo donde estés. Yeah. Baby, yo sé que tú me quieres ver. No quieres que sepa, pero ya yo lo sé. Dime pa' que veas como yo donde estés. Yeah. Baby, yo sé que tú me quieres ver. No quieres que sepa, pero ya yo lo sé. Dime pa' que veas como yo donde estés. Yo sé que tú me quieres ver. No quieres que sepa, pero ya yo lo sé. Dime pa' que veas como yo donde estés. Hey. Baby, yo sé que tú me quieres ver. No quieres que sepa, pero ya yo lo sé. Dime pa' que veas como yo donde estés.
Sur Prune, c'était Baby Baby de Noise Diva. Et pour finir cette émission, on retrouve notre création autour du conte, le lore des folks. Ce sont des contes ligériens écrits et racontés par Ivy et réalisés par Cléo Kepri. Ivy s'est inspiré des contes de tradition orale collectés par le célèbre folkloriste breton Paul Sébillot à la fin du 19e siècle. Elle les réactualise en leur donnant de nouvelles tournures un peu moins religieuses, un peu plus queer, mais toujours locales. Ce deuxième épisode évoque la dangerosité des relations de domination, leur teneur et leur prix.
C'est l'heure du lore des folks. Par ici, les fées passent se faire redorer la légende. La Dame Blanche est sans faux col. La brume se propage par fin corrigant. À l'ombre des pierres levées, venez entendre la chanson nouvelle des petits récits passés.
Le Palais de Palais. La dernière fois, on m'a raconté l'histoire d'un type, appelons-le Fanche, qui s'en va pêcher un beau matin de dimanche au nord de Saint-Brévin. Comme il est fatigué, elle se repose un peu, s'allonge sur ses filets. Mais lorsqu'elle se réveille, soudain tout a changé. Le ciel est bicolore, la jetée toute blanche, et il n'y a ni ponton, pas non plus de bateau, ni oiseau, ni poisson. Et sous sa main, le sable a une autre texture, même qu'il sent la vanille, ou bien la confiture. Alors Fanche goûte pour voir. Et ma foi, c'est bien vrai. Ce sable dans ma main, c'est bien du sucre en poudre. Et tout est fait ainsi dans ce royaume étrange de desserts, d'ingrédients, d'aliments, de gâteaux. Fanche s'y promène alors, et chaque fois, elle s'étonne. Il fait à la fois jour, il fait à la fois nuit. Dans le ciel s'étend un soleil de miel et ses rayons gluants, ainsi qu'une lune en crêpe, des nuages meringues, des confettis d'étoiles. Les montagnes au loin sont faites en quatre quarts saupoudrées à leur cime d'une neige en sucre glace. Y coule une cascade d'épais laits concentrés. Fanche croise sur son chemin des ruisseaux de sirop, des arbres à muffins, des galets de dragées, des roches en brioche, des fleurs de nougatine. Fanche, par curiosité, en cueille une et la croque. Elle n'a même pas le temps de fondre dans sa bouche qu'une autre a repoussé. Et il en va ainsi de tout ce qui l'entoure. Même lorsqu'on en mange, tout se reconstitue. Alors Fanche s'exclame « Quel pays merveilleux ! Tout y pousse sans effort, on ne doit manquer de rien !» En En suivant un chemin pavé de pain perdu, notre fange découvre un palais étonnant. Sur une île flottante, dans un lac de crème, porté par 5 colonnes faites de sucre d'orge, des tours en guimauve, des toits en tuiles d'amande, et chaque pierre de ces murs est un palais breton. Un palais de palais. Fange veut le voir de près, franchit le pont de Scone, mais Yael entend pleurer au-dessus de sa tête. Yael voit une fenêtre, faite de petits beurres, un jeune homme penché. De doux cheveux corbeaux, une jolie peau de nacre, un bonnet retroussé et de grands yeux marines tout noyés par les larmes. Un garçon si gracile que même en pleurant, il gardait tout son charme. Fanche s'en trouve bien troublé et rougit comme une fraise. Puis, entre deux sanglots, lui demande doucement « Aurais-tu besoin d'aide ?»«
Ah, je ne sais, monsieur. Ou bien est-ce madame ? Est-ce donc il ou elle ?»
C'est vrai que pour sa part, Fanche a le cheveu long et de grands yeux de biche s'apprête à confusion.
Un peu entre les deux, tu peux me dire Yael. Oh, je te dirai tout, mais pas pour bien longtemps, car mon heure est venue.
Comment ? Où t'en vas-tu ?
Nulle part, mon ami. Entends-tu ce bruit sourd ? C'est le glas que l'on sonne, car cette cloche est pour moi. Avant l'aube prochaine, je dois quitter la vie.
Un son grave et visqueux s'étend dans toute la plaine. La cloche, elle aussi, est faite en beurre gelé.
« Quel pays singulier !» se dit Fanche à lui-même. « Où le sable est en sucre, le soleil est en miel, le palais en palais, rien n'y périt jamais. Pourtant, ces cloches molles sonnent le trépas des jeunes. »
« Tu ne crois pas si bien dire, » lui répond le garçon, « car si je vais périr, il faut qu'on me remplace. Le nouveau reste ici. L'ancien garçon trépasse. C'est là l'ordre établi. »
À ces mots, Fanche pâlit. Veut s'enfuir, mais trop tard. Les gardes du palais l'ont déjà encerclé, menaçant de leurs haches en cornes de gazelle et de leurs hallebardes en éclairs au café. On conduit Fanche au roi de ce pays bizarre.
C'est le roi Moraman, aussi cruel que sombre. Sa couronne en donuts, sa longue barbe à papa, tranche avec son air dur et son sourire amer. Il trône sur un trône en marbre de marbré. À ses pieds, un cabot en forme de loukoum fait des huit en Japon.
« Voilà donc le nouveau !» dit-il en regardant Fanche de bas en haut. « Tu as une drôle d'allure, mais tout de même plaisant. Tu feras bien l'affaire. »«
Messire, lui répond Fanche, avant de me garder prisonnier au palais, messire, expliquez-moi en quoi ce sort consiste. Je ne puis résister, mais voudrais bien comprendre. »
C'est simple, dit Moraman. Afin de conserver tout mon royaume intact, je capture un garçon, joli de préférence, car j'aime la beauté et la fraîcheur de l'âge. 5 cycles plus tard, je dois le remplacer.
Comme ce sort est brutal, n'avez-vous pas pitié ?
Le sel de leurs larmes est l'ingrédient final qui complète la recette de tout ce sortilège. Personne n'a pu le rompre. C'est une magie de fée.
Si c'est un sort de fée, il y a une formule. Les fées sont malicieuses et aiment les énigmes. Dites-moi celle-ci, ou gardez-moi toujours.
Moraman rigole.
Aucun homme n'a pu jusqu'ici la résoudre. Je peux être tranquille. Ainsi donc, la voici. Pour ne pas devenir prince du pays sucré, il faudra réunir ensemble 5 palais.
Fanche aime les devinettes. Yael cogite un instant. Les gardes le tiennent en joue, le loukoum trottine, le roi est impatient.
5 palais.
Alors, tonne Moraman, est-ce que c'est pour bientôt ?
Et Fanche dit, attendez, je crois que j'ai compris. Les fées sont malicieuses et aiment les doubles sens. Un palais en palais, voilà les 2 premiers. Mon ami, approche-toi.
Fait-il au garçon triste qui descend justement de sa chambre-prison.
« Voyez ce beau visage, indiscutablement, ce garçon n'est pas laid. Pas laid. Et c'est donc mon 3e. Allons, viens par ici. »
Fanche sort de son sac une gourde de verre qu'elle avait remplie d'eau avant d'aller pêcher.
« Cette gourde est pleine d'eau pure. Incontestablement, ceci n'est pas du lait. Pas laid. C'est donc mon 4e. Allons, prends une gorgée. »
Le garçon boit son eau. Moraman fulmine.
Ça y est ! S'exclame Fanch. L'énigme est résolue ? Indubitablement. Une partie de la bouche s'appelle le palais. Palais ? Voilà donc mon cinquième. Reprenons tout ensemble dans ce joli palais, 1. Au mur de palais, 2. Ce beau garçon palais, 3. Aval du palais, 4. Qui coule dans son palais, 5. Ma foi, le compte y est.
À ces mots, les murs tremblent. Les gardes se mettent à fondre. Le chien Loukoum aboie et Moraman rugit.
Sale nabo de pêcheur, tu détruis l'équilibre. Pendant 5 longs cycles, tu aurais pu vivre sans ne manquer de rien.
C'est que, lui répond Fanch, je préfère être libre. Et Fanch prend la main du très joli garçon et s'enfuit du palais qui tombe sous ses pas et court et court et court jusqu'à en perdre haleine. Tout autour d'eux s'écroule, s'effondre, se désagrège. Arrivé au rivage, Fanch plonge dans la Loire. Aussitôt remonté, le voilà revenu. Le ciel n'est plus que bleu. Le sable n'est que du sable. Le garçon l'a suivi. Il sourit à présent. Merci, mon cher ami. Grâce à toi, je suis sauf. Je rentre chez ma mère si elle est encore là. Mais je te dois la vie. Je ne t'oublierai pas. Fanch n'oublia jamais le baiser de framboise qu'il posa sur ses lèvres avant de le quitter. Et repense souvent, lorsqu'elle s'en va pêcher, à cette mésaventure au palais de palais.
C'était l'heure des folks. Petit conte ligérien d'hier, revisité pour aujourd'hui. Écrit et raconté par Ivy, réalisation Cléo Képri, pour Radio Prune.
Et de retour sur le 92 FM sur Prune. Notre point météo de ce week-end à présent. Samedi, on aura un ciel très nuageux le matin avec 14 degrés le matin donc. Niveau après-midi, on prend les mêmes et on recommence. Sauf que pour la température qui sera elle de 17 degrés, j'ajoute que dans l'après-midi, des rafales de vent ne sont pas à exclure, pouvant aller jusqu'à 50 km/h. On continue avec dimanche. Le matin, ce sera de la brume qui nous attendra avec 14 degrés. En après-midi, le soleil pointera le bout de son nez avec un ciel plutôt voilé. Il fera 15 degrés en excluant toutefois pas des rafales de vent. C'est la fin de cette édition, merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite sur Prune, ne manquez pas le planétarium à 19h. Prochain rendez-vous avec l'actu local, c'est lundi dans Curiosité. Très belle fin de soirée avec nous sur le 92 FM et à vendredi prochain.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30. Et en podcast sur prune.net.